quand on parle de la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc, quand on pose la question aux enfants, en général, ils répondent « construire sa maison sur le roc, c'est construire sa maison sur Jésus ». Or, quand on lit le texte, enfin, c'est ce que je crois que tout le monde répond, hein, celui qui construit sa maison sur le roc, c'est, alors là, c'est Luc 6. Celui qui l'a construit sur le sable, en tout cas, c'est celui qui entend et ne met pas en pratique. Voilà, c'est là que je voulais en venir, en fonction de ce qu'André vient de dire. Et souvent, nous, on pense construire sa maison sur le roc, c'est construire sa maison sur Jésus, voilà, construire notre vie sur Jésus, etc. C'est bien, c'est vrai. Mais ce que Jésus dit, lui, c'est que celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à l'homme qui a construit sa maison voilà, sur le sable. Ok ? Donc voilà, ça fait réfléchir, et c'est vrai, comme dit André, on écoute beaucoup de choses. Je sais qu'en ce moment, moi, j'écoute beaucoup le cousin de Julie, qui est un pasteur fantastique, et qui dit des choses très, très fortes, très concrètes, et ça m'apporte beaucoup. Mais c'est vrai, la question qu'il faut se poser, qu'il faut que je me pose, c'est qu'est-ce que j'en fais en pratique ? Voilà, et ça fait réfléchir, hein, parce que c'est agréable d'entendre des messages forts, mais voilà, qu'est-ce que j'en fais en pratique ? Et j'espère, et ma prière, c'est aussi ça pour les messages sur les uns les autres, parce que je crois que, j'en sais pas plus que vous, si ce n'est que j'ai travaillé sur ces messages, mais après, dans la mise en pratique, on est tous au même niveau. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va au moins essayer ? Parce que je crois que le Seigneur ne nous juge pas sur nos succès. Tu y es arrivé, c'est bien, tu es un bon enfant de Dieu, tu n'y arrives pas, tu es nul, tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Mais il nous juge sur nos motivations, sur notre cœur. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je vais tout mettre en œuvre pour ça ? Et là, ça change tout. Hein. Donc ne soyons pas écrasés. C'est vrai qu'en préparant ce message, souvent je me sens un peu écrasée, je me dis « Oh, on en est tellement loin !» Je vous le dis, je vous le répète chaque dimanche, parce que chaque semaine j'ai le même problème. Oh, j'en suis tellement loin. Mais bon, ben, on apprend ensemble, hein, et on va y arriver. Le tout, c'est qu'on ait cette motivation. Oui, on veut aller vers les uns les autres. Et en fait, en faisant ça, on va complètement à contre-courant de notre société. Hein, parce que notre société, elle va complètement dans l'autre sens. C'est moi. D'ailleurs, il y a un passage incroyable dans la parole de Dieu, je vous le citerai à l'occasion, où il montre quelqu'un qui dit « c'est moi, et rien que moi ». Évidemment, ce n'est pas une histoire très favorable. Mais je crois qu'on est dans cette période, donc en prêchant ça, on va à contre-courant. En essayant de vivre ça, on va à contre-courant. Mais c'est quand même un courant qui existe, même dans la société. Je regarde souvent des petits trucs sur YouTube où les gens disent « oui, il faut faire ça pour notre monde, il faut faire ça pour nos enfants, il faut faire ça pour notre société ». Je crois qu'il y a un courant, il y a une aspiration. Et je pense que nous aussi, on est appelés à entraîner ces gens en leur disant « bah oui, nous en tant que chrétiens, on fait tout ce qu'on peut pour aller dans ce sens-là ». On va pas se présenter comme des modèles, on en est hélas très loin tous, mais on a cette aspiration et on va tout faire pour aller dans ce sens-là. Et ça, c'est important. Hein. Je crois que... Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu le message de la semaine dernière, il y a un excellent enregistrement dont je crois André a envoyé les coordonnées.
Ils sont tous excellents.
Voilà. Voilà. Donc, vraiment remarquable. En fait, je l'ai réécouté un peu hier soir pour être sûre de l'endroit où je m'étais arrêtée. Et le son est vraiment très bon, et voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez l'écouter, ça vous permettra peut-être de boucher le trou si vous n'avez pas pu l'entendre, surtout ceux qui sont sur Internet, qui écoutent sur Internet. Alors, on en était arrivé au point 8, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On avait vu la dernière fois, on s'était arrêté sur « il ne trame pas le mal ». Certaines traductions disaient « il ne soupçonne pas le mal » et on a vu que c'était plutôt « il ne fait pas une comptabilité du mal que les autres ont commis ». Voilà, on s'en est arrêté là. Alors, il ne se réjouit pas de l'injustice. Et ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que qui va se réjouir de l'injustice, honnêtement ? Hein ? On n'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui va dire « ouais, c'est pas beau, j'aime ». Voilà. Peut-être que parfois... Certaines injustices, Le mot exact, c'est pas l'injustice au sens français du terme. Hein, c'est pas juste. C'est les enfants, ils connaissent ça. Hein, c'est pas juste. Dès que vous distribuez les bonbons, que vous distribuez quelque chose, oh là là, s'il y a un petit bout plus gros que l'autre, c'est pas juste. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Se réjouir de l'injustice, c'est se réjouir de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'a pas la faveur de Dieu. On peut utiliser le mot iniquité. Et donc, on se réjouit pas de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas beau. Ah. Il y a une traduction anglaise qui dit « on ne se réjouit pas de ce que Dieu regarde ou considère comme mauvais ». J'aime bien cette traduction. Les Anglais sont souvent beaucoup plus concrets dans leur traduction de la Bible. C'est pour ça, je suis désolée, que je fais souvent appel à l'anglais. Parce que même les vieilles traductions de 1600 et quelques sont plus faciles à lire que la seconde parfois, parce qu'ils sont beaucoup plus concrets. Et donc, il ne se réjouit pas, l'amour ne se réjouit pas de ce que Dieu regarde ou considère comme mauvais. Ah, là, ça, l'injustice, ok, mais ce que Dieu considère comme mauvais, ça pose plus de problèmes. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à nos plaisanteries, parce qu'en France, on aime bien rigoler de tout et de tout le monde. Et si je prends ce verset, alors j'y pense aussi parce que je viens d'une famille qui riait beaucoup. J'avais un père qui était très espiègle, sévère, mais très espiègle, et on riait énormément. Les repas de famille, ils nous faisaient toujours beaucoup rire, et ça fait une partie importante de mon éducation, ça a été les bonnes plaisanteries saines. Donc, j'ai forcément pensé à nos plaisanteries. On ne se réjouit pas, on ne s'amuse pas avec ce que Dieu interdit. Ah ! Et Éphésiens 5,4 dit qu'on entende au milieu de vous ni plaisanterie déplacée, etc. Vous pourrez regarder ce verset suivant les traductions, hein, Éphésiens 5,4. Et alors, il y en a qui prennent ça comme quoi, ben, il faut pas rire, il faut pas plaisanter. Oh, quel dommage. Non. Par contre, on ne se réjouit pas, on ne rit pas de choses que Dieu désapprouve. Et je suis toujours gênée quand parfois à la radio, d'ailleurs je l'écoute très peu maintenant, certaines radios, il y a beaucoup de plaisanteries sur les LGBT, sur etc. En quel honneur on ne rit pas de choses que Dieu désapprouve. Donc, je crois qu'il faut y penser. Et mon église à Rouen est née au moment du réveil, dans les années 30. Et un truc qui m'a beaucoup frappée, c'est que beaucoup de gens qui venaient de rencontrer le Seigneur témoignaient. Vous savez, on avait l'habitude dans nos églises d'avoir des témoignages l'après-midi, à la réunion de l'après-midi. Et je raffolais de ces moments-là, parce que ça permettait de connaître les gens, et de voir un peu ce que Dieu avait fait dans leur vie. Il faudra peut-être qu'on refasse ça aussi un peu chez nous, parce que c'est fantastique ce que Dieu fait dans les vies. Et un thème qui revenait souvent, c'est bien sûr, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, et puis, mon langage a changé. Et vous savez qu'au moment du réveil du Pays de Galles, André cite souvent cet exemple, dont vous le connaissez par cœur, les chevaux ne répondaient plus aux ordres parce que les mineurs, c'était dans les mines, hein, ils avaient des chevaux qui tiraient les chariots de charbon, les mineurs n'utilisaient plus de jurons et de gros mots, etc. Et du coup, comme les chevaux, ils se repéraient aux intonations, évidemment, hein, ils comprenaient plus trop ce qui leur arrivait. Et ça, je l'ai vu dans combien de vies transformées. Les gens disaient, je n'utilise plus le même langage. Et ça s'est fait assez naturellement, quand l'amour du Seigneur est rentré dans mon cœur. Et là encore, je le répéterai jamais assez. J'aime bien me répéter, tout le monde sait que je suis un peu gaga de ce côté. Mais franchement, c'est pas un effort. C'est pas quelque chose de « je ne dois pas, je ne dois pas, je ne veux pas, je ne dois pas ». C'est vraiment quand l'amour du Seigneur rentre dans les cœurs, ça se fait relativement naturellement. Et j'étais frappée des témoignages de ces gens. Il y avait des gens inimaginables, qui avaient fait les 400 coups, et qui avaient un vocabulaire ordurier. Il fallait les entendre témoigner quelques mois après après s'être donné au Seigneur. Waouh, c'était impressionnant. Et je pense, j'y pense pour les plaisanteries. Je sais qu'une des premières choses que mon père a fait quand il s'est converti, quand il est venu au Seigneur, il n'a plus raconté les mêmes plaisanteries au travail. Il travaillait comme typographe, donc il était dans un atelier avec plein de jeunes. Évidemment, ça rigolait beaucoup. Et ils avaient tout un tas de plaisanteries, la dernière, ils se racontaient, etc. Et quand il est devenu chrétien, il a fait un tri dans ses plaisanteries. Automatiquement, il y a des plaisanteries, ses copains ont vite compris qu'il y a une certaine catégorie de plaisanteries qu'il n'utiliserait plus. Et ça ne l'a pas empêché de bien rire et de bien nous faire rire, mais pas avec une certaine catégorie de plaisanteries. Et je crois que, en tant que l'amour de Dieu veut qu'on évite certains types de plaisanteries. L'amour ne se réjouit pas des choses injustes. Et j'irai même un petit peu plus loin. J'aime énormément le théâtre. J'ai fait mes deux mémoires de maîtrise sur le théâtre. Et il y a des pièces de théâtre, ça me gêne de les regarder. Parce que de quoi est-ce qu'on rit ? De l'adultère, particulièrement. Puis bon, d'autres choses, mais... Et c'est gênant. C'est très gênant. C'est très gênant parce que ce sont des choses que Dieu ne regarde pas comme bonnes. Donc voilà, je vous laisse ça à votre réflexion, non pas dans un esprit il faut pas, vous devez pas, etc. Mais réfléchissons à ça, de quoi est-ce qu'on se réjouit ? L'amour se réjouit de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui réjouit le cœur de Dieu. On ne se réjouit pas non plus de la désobéissance ou de la chute de quelqu'un, qu'il soit chrétien ou non. Même si à nos yeux... Et là, je touche à la fibre des Français, hein, pour la justice et l'égalité. Même si à nos yeux, c'est bien fait et c'est mérité. Il ne l'a pas volé. Hein, combien de fois on entend ça ? Ah, il ne l'a pas volé, c'est un juste retour des choses. Oui, mais Dieu nous demande de ne pas nous réjouir de ce genre de choses, je crois. Parce que c'est quelque chose que Dieu regarde comme mauvais. La Bible nous invite à ne pas nous réjouir du malheur des autres. Alors ça, bon, normalement, en tant que chrétien, c'est vrai, mais bon... L'attitude de Dieu envers ceux qui se moquaient de son peuple est impressionnante. Et là, vous trouverez ça dans Ésaïe chapitre 10, Ésaïe 47. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a frappée. Dieu explique dans ces passages que son peuple a été désobéissant, il a été idolâtre, il a fait toutes sortes de bêtises. Et du coup, il l'a puni. Il l'a livré aux mains de ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a laissé les ennemis l'envahir, déporter la population, ou prendre des villes ou des trésors, enfin, suivant les cas. Et l'attitude de Dieu se tourne ensuite contre les gens qui ont frappé en disant « Mais moi, j'avais puni mon peuple. » Donc vous verrez ça dans Ésaïe 10, Ésaïe 47. « J'avais puni mon peuple, mais vous, vous l'avez écrasé. Vous avez été bien au-delà de la punition que je voulais pour eux. Vous en avez profité, en quelque sorte. Hein. » Je mets ça en langage moderne. Et donc... La Bible nous invite à ne pas nous réjouir du malheur des autres. Alors vous avez aussi, et là c'est très très important, parce que parfois on a envie de se réjouir, hein. Ah bah s'ils ne l'ont pas volé, attention. Alors Proverbe 17, 5, « Qui se moque du pauvre outrage celui qui le fait. Qui se réjouit d'une catastrophe ne sera pas tenu pour innocent. » Ah. Et même si cette catastrophe a englouti des voyous, des méchants, des gangsters ou je ne sais quoi. 24, 17 et 18, toujours dans les proverbes. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et ça, c'est important. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que le Seigneur ne le voie et que cela ne lui déplaise. Ah. Et... J'ai appris récemment que quelqu'un qui nous avait fait beaucoup de tort vit quelque chose de vraiment très dur. Et j'ai repensé à ce verset. Et je pense qu'au contraire, ça donne une crainte de Dieu. Ouf, Dieu ne laisse pas l'injustice impunie. Mais arrêtons-nous là. Je ne veux absolument pas me réjouir de ce que ces gens ont des démêlés avec Dieu maintenant, pour différentes raisons, peu importe. Ne nous réjouissons pas d'une catastrophe, ne nous réjouissons pas, même si ça peut nous sembler bien mérité, etc., un juste retour des choses. Je pense que Dieu nous demande de ne pas. L'amour qui doit être dans nos cœurs nous appelle à ne pas nous réjouir de ça. Ça fait réfléchir, hein. Tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Le châtiment de quelqu'un n'est pas un sujet de réjouissance pour le Seigneur. C'est un sujet de peine. Et là, je voudrais vous citer un pasteur indien que j'ai souvent traduit quand il venait en France. Alors, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et il pouvait parler contre le péché avec une véhémence impressionnante, mais vraiment impressionnante. Et c'était pas drôle pour moi de traduire, parce que wow, il y allait là avec force, et parfois j'arrondissais un peu les angles dans ma traduction, et il le sentait, même s'il comprenait pas le français, il faisait ça. Il sentait que j'avais pas mis ce qu'il fallait dedans. Et pour vous dire, il était extrêmement véhément. Par contre, je me souviens d'un moment particulier où ça m'avait gêné, parce qu'il était très carré. Et puis tout d'un coup, je le vois les larmes aux yeux, et la voix qui tremble. Parce que là, il commençait à parler non pas du péché, mais du pécheur. Et là, il était complètement différent. Et je me souviens avoir été désarçonnée. Vous savez, quand vous traduisez quelqu'un, vous prenez un petit peu ses sentiments et tout, vous essayez de retraduire. Et d'un seul coup, j'étais perdue, quoi. Il avait été... Et puis, il parlait du péché. Et après, il parlait du pécheur. Et là, il y avait les larmes qui coulaient. Ça m'a choquée. J'ai pas très bien compris sur le coup. J'ai dit, mais c'est quoi? Et après coup, j'ai réalisé, mais oui, il est complètement dans la parole de Dieu, contre le péché, avec force, mais pour le pécheur, avec énormément d'amour. Et il avait beaucoup de confessions de gens, et il m'avait dit une fois, j'entends tellement d'horreur, que je suis obligée de vraiment déverser mon cœur auprès du Seigneur. Et je comprends maintenant pourquoi, évidemment avec le temps, hein, je comprends pourquoi il avait tant de haine pour le péché, qui détruit les gens, qui détruit les familles, qui détruit. Hein, et par contre, beaucoup d'amour pour le pécheur. Alors, je vous avais cité tout à l'heure le verset sur les plaisanteries et sur le vocabulaire, donc, et je l'ai mis ici. En français courant, voici ce qu'il dit. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent. Et là, je voudrais qu'on retienne ça. Vous appartenez au peuple de Dieu par conséquent. La suite. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales, etc. Et vous voyez la raison pour laquelle il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on doit être des bons chrétiens, ce n'est pas parce qu'il faut donner un bon exemple, ce n'est pas parce qu'il faut donner à nos enfants l'impression qu'on est des très bons chrétiens, là, là, là. Parce que vous appartenez au peuple de Dieu. Et arrêtons d'avoir des fausses motivations. Même à la limite, on est bien élevé dans la famille, donc on n'utilise pas de gros mots, ou bien des choses comme ça. Oui, bien sûr, mais en fait, l'important, c'est vous appartenez au peuple de Dieu. Ce n'est pas que vous appartenez à la famille Dupont, Durand, machin. Vous appartenez au peuple de Dieu. Donc il n'est pas convenable, et j'aime bien cette traduction, par conséquent, il n'est pas convenable. Parce qu'on appartient au peuple de Dieu. Donc, nier les paroles grossières, stupides, tout ça, etc. Parce qu'on appartient au peuple de Dieu. Et parce qu'on doit être rempli, donc, de l'amour du Seigneur dans nos cœurs. C'est tout un programme. Alors ça, c'était pour les caractères négatifs de ce que l'amour n'est pas. Et on va commencer à aborder les caractères positifs. Alors, l'amour prend patience ou est patient. Alors, ce qui m'a amusé ici, le mot utilisé... C'est macrotoumia qui désigne un long temps d'attente. Et c'est la suite qui m'a un petit peu fait réfléchir. Pendant lequel on domine son thumos, c'est-à-dire son humeur. Dominer son humeur. Bah ça, c'est pas facile, hein. Si on est de bonne humeur, tout va bien. Mais si on est de très mauvaise humeur, hein, qu'est-ce qui se passe? L'amour prend patience. C'est-à-dire que l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs doit nous aider à dominer notre humeur. C'est tout un programme. Et c'est ça, l'amour prend patience, l'amour est patient. Oui, bon, on ne va pas trop insister, hein. On va lire Romains 2, 4. Romains 2, 4. Ah, c'est tout un programme. Romains 2, 4 dit ceci. Méprises-tu la richesse de sa bonté, de Dieu évidemment, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. La patience de Dieu, c'est à cause de cette patience que Dieu attend notre bonne volonté pour changer. Aïe. L'amour de Dieu nous touche souvent à cause de sa patience, il faut le reconnaître. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, je le cite souvent dans ce message, le père du fils prodigue, qui fait penser d'ailleurs à ce que un texte aussi que je cite souvent, c'est Ésaïe 65, verset 2. « Tous les jours, je tends mes mains vers un peuple rebelle. Tous les jours, je tends mes mains. » C'est l'attitude du père du fils prodigue. Il tend les bras. Alors, vous remarquerez qu'il ne va pas le chercher. Il ne fait pas tous les cafés de la ville. Bon, je connais des gens qui l'ont fait et ça a marché, merci Seigneur. Mais il attend. Il attend que le fils reconnaisse, soit dans la repentance, demande pardon et veuille redémarrer une vie nouvelle. Il ne va pas le forcer. Il attend. Mais tous les jours, il tend les mains vers nous. Et parfois, on a l'impression, oh là là, j'ai gaffé, je n'ai pas bien fait. Mais il tend les mains vers nous. Ça veut dire qu'il est prêt à nous aider, il est prêt à nous pardonner, parce qu'il sait une chose que je répète aussi souvent, il sait qu'on est tous en chemin. Il sait qu'on est en chemin vers lui, mais aussi qu'on est en chemin les uns envers les autres. Et on va progresser, je suis sûre, si on essaie de mettre en pratique tout ce qu'on voit là, on va progresser et Dieu sait qu'on est en chemin. Il connaît nos cœurs. Et ce n'est pas la peine de faire semblant avec Dieu. Vous pouvez toujours faire semblant avec les hommes. Avec Dieu, ça ne marchera pas. On peut lui dire n'importe quoi. Il connaît nos cœurs, il connaît nos motivations. Et il vise juste. Donc l'amour de Dieu a cette patience. Hein. Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience ? Méprisons pas sa patience. Donc l'amour prend patience, ça c'est assez facile. Il est plein de bonté et de bienveillance. Le mot utilisé ici désigne la volonté d'être au service des autres. Alors c'est difficile, hein, voyez les problèmes des traducteurs, c'est pas simple. Parce que plein de bonté et de bienveillance, oui bon. Mais ça désigne la volonté d'être au service des autres. C'est-à-dire être constructif, faire du bien aux autres, même à ceux qui nous maltraitent. Et ça c'est vrai que c'est pas facile, même dans les milieux chrétiens, hein, de rendre le bien pour le mal. Et c'est toute une consécration à Dieu, je crois, de pouvoir, sachant que quelqu'un nous a mis le couteau dans le dos, nous a dit des choses qui sont fausses, surtout. Si c'est vrai, c'est facile, on peut se repentir. Si c'est faux, c'est beaucoup plus gênant. Mais enfin, pour moi, je le vois comme ça. C'est beaucoup plus gênant, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand c'est faux ? On ne peut pas se repentir de quelque chose qu'on n'a pas fait, bon, c'est un peu gênant. Et être capable de faire du bien à ceux qui ont fait ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette force. C'est cette fameuse hauteur dont on parlait, l'amour de Dieu qui prend de la hauteur. Et c'est extrêmement bienfaisant. Chaque fois qu'on le fait, il y a ce sentiment de l'approbation de Dieu. C'est bien, tu as fait ce qu'il fallait. D'accord, tu as souffert, mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu as rendu le bien pour le mal. Et c'est important, ça fait du bien d'obéir à Dieu. Alors quand on se pose la célèbre question « Que ferait Jésus à ma place ?» Eh bien, ces versets de 1 Corinthiens 13 nous donnent des belles réponses. Ce n'est pas facile. La semaine dernière, on a eu le témoignage de Wangui, hein, vous pourrez le réécouter sur le message la semaine dernière, qui a rendu le bien pour le mal. Même si pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Mais je prie souvent pour ça, que cette personne puisse devenir gentille, être reconnaissante, mais ça, ce n'est pas le plus important, qu'elle puisse se tourner vers Dieu et comprendre pourquoi Wangui a fait ça. Hein. Donc, je pense qu'on peut tous prier pour ça. On a prié pour ça mercredi parce que c'est comme ça que Marilyn Mitton s'est convertie. C'est quand cette infirmière à qui elle en a fait voir de toutes les couleurs a été gentille avec elle, lui a pardonné, s'est montrée extrêmement agréable et bienveillante, c'est là qu'elle a craqué et qu'aujourd'hui, elle peut être une évangéliste efficace. Voilà, donc attention aux mauvaises images de Dieu. Si vous ne voyez pas Dieu comme bienveillant à votre égard, par pitié, priez. Ce n'est pas la bonne image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il approuve notre péché, mais il aime le pécheur. Il est bienveillant envers le pécheur. Et tout ce qu'il va dire, c'est « Allez, arrête ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Allez, relève-toi. » N'imaginez pas qu'il est là avec un bâton prêt à vous taper dessus. Il est bienveillant. Et ça ne veut pas dire qu'il ne nous corrige pas, mais il est bienveillant. Il nous regarde avec bienveillance. Si vous imaginez le regard de Dieu sur vous comme un regard dur, par pitié, priez là-dessus. Priez avec des gens. Faites quelque chose. Lisez votre Bible. Vous allez voir que Dieu est un Dieu bienveillant. Et ça nous aidera aussi à être bienveillants envers les autres. Alors, on va terminer sur un passage qui m'a fait beaucoup cogiter, parce que la traduction de M. Kuhn modifie un tout petit peu. Le texte qu'on connaît, nous, c'est « Il se réjouit de la vérité ». L'amour se réjouit de la vérité. Or, il dit que non, le texte initial dit « Il se réjouit avec la vérité ». Comme si c'était deux personnes qui se réjouissent ensemble, l'amour et la vérité. C'est intéressant. Et ça veut dire que quelque part, dans la pensée biblique, on ne peut pas dissocier l'amour et la vérité comme source de joie. L'amour se réjouit avec la vérité. Se réjouit, donc il y a de la joie qui est produite quand il y a l'amour et la vérité. Alors, c'est lui qui cite Romains 14, bien sûr, hein, qui nous incite à ne pas mépriser, à ne pas juger un frère, qui distingue les jours, les fêtes, les aliments, parce que là, il s'agit d'opinion. Et là, par amour, on laisse passer. L'amour et la tolérance, je crois que le titre dans les Bibles secondes, c'est « Principe de tolérance » pour Romains 14. Là, il n'y a pas de problème de mensonge. Ce sont des opinions sur des jours, sur des aliments, sur des fêtes, etc. Et Paul nous invite à laisser tomber. L'important, c'est la motivation, dit-il. Hein. S'il le fait, c'est pour le Seigneur. Ce sont des opinions. Par contre, là où l'amour et la vérité doivent se manifester ensemble, c'est quant à la doctrine de l'Évangile. Et je cite Kuhn, « On ne peut pas faire progresser la cause de l'Évangile en masquant une part de la vérité. » Ah, on ne peut pas faire progresser la cause de la bonne nouvelle, hein, de l'Évangile, si on masque une part de la vérité. Et l'amour ne doit pas être un prétexte pour laisser des gens dans de graves erreurs. « Oh, mais moi, je vais montrer l'amour. » Donc, il est dans l'erreur, ce n'est pas grave. Pas grave, c'est l'essentiel, c'est l'amour. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Alors, des exemples, le salut par la grâce. Si quelqu'un vous dit que bah, c'est ses œuvres qui vont le sauver, même si vous aimez beaucoup cette personne, non. Non, on est obligé de lui dire la vérité. Hein? La repentance. Alors, pendant un temps, c'est Jean-Paul Engler qui m'avait expliqué ça il y a quelques années, la mode aux États-Unis était de prêcher sur la grâce. Et uniquement la grâce. Alors, la grâce... sans péché, sans repentance, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Et alors, on ne prêchait pas sur le péché, on ne prêchait pas sur la repentance. Ben, comment apprécier la grâce s'il n'y a pas eu péché et repentance, hein? Si vous n'avez rien fait de mal et je vous dis, je vous fais grâce, vous allez me regarder en disant, mais je n'ai rien fait de mal, pourquoi tu me fasses grâce? Ben oui. Comment apprécier la grâce de Dieu, hein? Le prisonnier qui sort parce qu'il a été gracié par le président, ouah, il apprécie, hein? Il apprécie, il est content. Mais si le président rencontre quelqu'un dans la rue, il lui dit « je te fais grâce ». Pourquoi? Hein? Vous voyez, c'est ça, si on prêche qu'une partie, on ne prêche pas la vérité. Je crois que c'est un petit peu passé ça, mais c'est vraiment embêtant. Jésus, seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est des principes de base de l'évangile. Et si quelqu'un vous dit « oui, je rajoute Marie, les saints, ma grand-mère », On ne peut pas accepter, même si on a de l'amour pour ces gens. L'amour, justement, marche avec la vérité. Il se réjouit avec la vérité. Hein? Et donc, c'est un peu délicat, ça. Et souvent, les chrétiens ont été divisés. Parce que parfois, ils n'ont pas su faire la différence entre l'opinion, où Paul nous dit, allez, pff, et puis les bases de l'évangile. Et là, on ne peut pas les remettre en question. Ou alors quelque chose qui est quand même un petit peu gênant, parce que je l'ai entendu chez certains chrétiens, c'est pas toutes les religions se valent, mais c'est pas loin. Parce que vous avez rencontré, par exemple, une musulmane, elles sont super ces femmes parfois, elles ont un amour pour leur Dieu, elles sont parfois remarquables, hein, pleines de respect pour Dieu, et on devrait peut-être en prendre de la graine d'ailleurs. Mais ceci étant, on peut quand même pas leur dire que c'est ça qui va les sauver. On est supposé leur dire la vérité. Alors, là, je m'adresse aux jeunes, ils ne sont pas tous là, mais bon, pour les plus jeunes ou bien ceux qui témoignent beaucoup, je précise toujours, on ne peut pas, nous, humains, dire telle personne sera sauvée, telle personne sera perdue. Rappelez-vous toujours qu'on a un Dieu juste, qui connaît les cœurs, qui connaît ce que les gens ont pu apprendre, ont pu comprendre. Et lui jugera en fonction de tout ça. Mais nous, on ne sait pas. Donc, n'allons jamais dire à quelqu'un « tu es perdu ». Tu iras en enfer. Hein. On était dans un bed and breakfast en Angleterre, où c'était à côté de l'église de Colin Urquhart, et il y avait eu des gens de l'église, enfin des gens de passage dans l'église de Colin Urquhart pour une conférence, qui avaient dit à ce monsieur, parce qu'il était juif, « Vous êtes perdu, vous irez en enfer !» Bon, je crois pas que ce soit vraiment la bonne façon de témoigner. Je crois que là, il aurait eu besoin d'un peu plus d'amour. On a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais le terrain était bien abîmé. Mais ça, voilà, nous, on n'est pas là pour dire ça. On est là pour présenter le plan du salut, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Après, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est Dieu qui décidera de ce qu'il fera. Et avec cette petite dame musulmane qui est charmante, avec ce monsieur juif qui aime Dieu, eh bien, nous, on annonce la vérité avec amour. Et après, c'est Dieu qui décidera du reste. On aura peut-être des surprises au ciel. Mais pour l'instant, je dis particulièrement aux jeunes, parce qu'ils sont en contact avec ces gens-là à l'école, attention, c'est pas nous qui condamnons, qui envoyons, etc. La Bible est claire, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Ça, il faut l'annoncer. Après, je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Dieu est un Dieu juste et il s'occupera du reste. Laissons à Dieu ce que nous ignorons, hein, je crois. Je voulais insister là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, parce qu'on est parfois impressionné par des athées qui mènent une vie extrêmement intègre, des musulmanes qui ont ce respect de Dieu, des juifs aussi, et on va dire, oh là, ou des bouddhistes. On leur annonce la vérité avec amour, mais on n'est pas là pour leur dire s'ils vont aller en enfer ou ailleurs. On ne sait pas ce qui se passe dans les dernières minutes de leur vie, quand ils voient Jésus en face. On ne se mêle pas de ça, ça ne nous regarde pas. Mais on annonce la vérité, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul nom par lequel on puisse être sauvé, avec amour, et après on laisse le reste à Dieu. Donc pour terminer avec ce point, le Seigneur nous aime, il est bienveillant et patient, mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi la vérité qui nous libère. Et si on veut être libéré de quelque chose, ça sera forcément par la vérité. Et c'est ça qui va nous permettre de guérir. Son amour et sa vérité apportent la joie du salut, déjà. Hein, il y a plus de joie dans le ciel pour quelqu'un qui se repent. Il y a une joie dans le salut. Hein, et je pense que dans la louange, c'est peut-être quelque chose vers lequel on a besoin de revenir. Je suis sauvée de quoi ? Dieu m'a délivrée de quoi ? Dieu m'a guérie de quoi ? Et en fonction de ça, ouah, je peux louer Dieu. Hein, peut-être faut revenir un peu aux bases. La vérité nous construit et nous restaure. Elle ne nous écrase pas, elle ne nous détruit pas. La vérité de Dieu. Alors, pour les hommes, c'est différent. Mais je pense que c'est important de se rappeler de ça. L'amour et la vérité marchent ensemble et ils apportent la joie. Donc, ce n'est pas la peine de cacher la vérité à condition de la présenter avec amour. Et là, il y a la joie. Et je pense que c'est aussi dans le ministère de la Maison d'Élie, ce qu'on pratique, reconnaître. Reconnaître, c'est pratiquer la vérité. Reconnaître que j'ai un problème, reconnaître quelque chose qui tourne pas rond dans ma vie, reconnaître qu'il y a des racines d'amertume ou qu'il y a ceci ou cela. Si je reconnais, autrement dit, si j'accepte la vérité sur moi-même, alors je vais être libérée. C'est très facile d'être libérée à partir du moment où on reconnaît. Le plus dur, c'est de reconnaître. Parce que voilà, l'ennemi ne tient pas non plus à ce qu'on reconnaisse nos problèmes. Donc voilà, l'amour et la vérité produisent la joie. Et retrouvons cette joie de l'amour de Dieu et de la vérité sur nous-mêmes. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bienveillance. Oui, tu es un Dieu bienveillant. Et Seigneur, aide-nous à nous rappeler d'où tu nous as tirés. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et que si on ne t'avait pas connu, où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Dans quel état on serait ? Alors Seigneur, remplis nos cœurs de reconnaissance. On est tellement dépendant de toi pour tout ça. On a tellement vite fait de rester notre regard fixé vers le bas, alors que ta parole nous dit que si on tourne les yeux vers toi, on est rayonnant de joie. Merci pour ta vérité qui nous construit, qui nous restaure, qui nous libère. Merci parce qu'elle nous apporte la joie avec ton amour. Aide-nous, Seigneur, chacun à mettre en pratique ce « les uns les autres » qu'on est en train de prêcher, sinon c'est que de l'animation et c'est pas ce que tu veux, Seigneur. Nous te prions vraiment de nous aider chacun, parce que tu sais que c'est pas facile, c'est pour ça que tu as tellement insisté sur les uns les autres. Viens à notre aide, Seigneur. Amen.